Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 19 janvier 2022 pour ce journal. Vous aurez tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Opération contre les Émirats, panique à Tel Aviv. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le président Raïssi arrive à Moscou pour une visite officielle de 2 jours. PGAC, action sérieuse des négociateurs au 8e tour pour parvenir à un accord. Et puis les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre 3 personnes accusées de lien avec le Hezbollah. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien est arrivé à Moscou ce mercredi à la tête d'une délégation de haut niveau et a été accueilli mercredi par des responsables russes et des diplomates iraniens à l'aéroport de Vnukovo. Le président Raïssi, qui a quitté Téhéran pour Moscou mercredi matin pour un voyage officiel de 2 jours, a été accueilli à l'aéroport de Moscou-Vnukovo par le ministre russe de l'énergie et le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Avant son départ, le président Raïssi a estimé qu'une coopération plus étroite profiterait à 2 pays. Il a affirmé que des liens plus solides entre les 2 États contribueraient également à la sécurité, à l'économie et aux liens commerciaux dans la région et serviraient de dissuasion à l'unilatéralisme mondial. Le président Raïssi sera accompagné lors de ce voyage de 2 jours par Hossein Amir Abdollahian, Javad Oji et Ehsan Khandouzi, ministre iranien des Affaires étrangères, du pétrole et des affaires économiques et des finances respectivement. Il s'agit de la 3e visite à l'étranger du président Raïssi depuis sa prise de fonction en juillet. L'ayatollah Raïssi s'est déjà rendu au Tadjikistan et au Turkménistan conformément à l'approche du 13e gouvernement visant à maximiser les liens avec les voisins et les pays de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Moscou partagent une vision stratégique des relations étrangères et que cela sert de pivot dans une nouvelle tentative de réorganiser leurs relations. Hossein Amir Abdollahian affirme qu'il existe divers sujets stratégiques qui régissent les relations entre les 2 parties. Selon le ministre, le cas de la Syrie est un modèle réussi de la coopération régionale des 2 pays. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que les secteurs publics et privés en Iran et en Russie étaient disposés à augmenter le niveau du commerce annuel, en particulier dans le contexte des sanctions américaines visant les 2 pays. Amir Abdollahian a ajouté que Téhéran et Moscou travailleraient ensemble pour compenser les effets des sanctions. Les négociations sur la levée des sanctions se poursuivent à Vienne, alors que les négociateurs de l'Iran, des 4+1 et des États-Unis tiennent des réunions intensives pour travailler sur les 4 questions principales. Le négociateur en chef iranien est parti lundi matin pour Vienne afin de reprendre ses pourparlers. En l'absence de Borrelli à Vienne, les négociations entre les représentants de l'Iran et le groupe 4+1 se sont poursuivies au niveau des experts. Borrelli est rentré vendredi à Téhéran pour des réunions de coordination et de consultation avec tous les responsables techniques et spécialisés concernés en amont sous la forme d'un programme lourd et intensif. Les pourparlers ont commencé lundi par des réunions bilatérales et trilatérales entre les négociateurs de notre pays et Henrique Mora, le représentant de l'Union européenne, et les négociateurs principaux des trois pays européens à l'hôtel Kobur à Vienne. Le représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que malgré les sanctions américaines qui violent le droit international, les droits fondamentaux des femmes et des filles, en particulier leur droit au développement, l'Iran avait fait des progrès significatifs dans l'autonomisation des femmes et des filles. Majid Tartravanchi s'est adressé à une réunion du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité mardi, hors local, évoquant le rôle des femmes dans la vie sociale, l'évolution économique et de la vie dans les situations de conflit. Malheureusement, nous continuons à voir les effets destructeurs de l'occupation et de l'intervention étrangère, ainsi que les activités terroristes ciblant les femmes et les filles, a déploré le représentant d'Iran aux Nations Unies en évoquant la situation des femmes en Asie occidentale. Autre thème, l'Iran affirme que le blocus et les bombardements saoudiens ne sont pas la solution à la crise au Yémen et qu'ils ne feront qu'aggraver les tensions dans la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que l'Iran soutenait constamment une initiative visant à parvenir à un règlement politique pour mettre fin à la crise au Yémen. Khatibzadeh a noté que l'Iran soutient toute solution garantissant l'intégralité territoriale du Yémen et prévenant l'escalade de la catastrophe humanitaire dans ce pays. Le diplomate a également souligné que la République islamique d'Iran est prête à aider à toute initiative qui conduirait à la fin de la guerre de 7 ans menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Enfin, le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre trois personnes qui, selon lui, ont des liens avec le Hezbollah. Washington accuse les hommes d'affaires d'avoir aidé le mouvement de résistance libanais à accéder à des fonds par le biais de leur entreprise de tourisme. Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme groupe terroriste étranger. Ils ont depuis ciblé de nombreux membres du Hezbollah avec des restrictions malgré un large soutien populaire au groupe à l'intérieur du Liban. En dépit de l'opposition américaine au mouvement, le Hezbollah est désormais une force politique majeure au Liban et certains de ses membres ont été élus au Parlement du pays. Le mouvement a répété à plusieurs reprises que les États-Unis ne pourraient pas nuire à la résistance en lui imposant des sanctions. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Opération contre les Émirats. Panique à Tel Aviv. Mardi 18 janvier, à peine quelques heures après que la moitié des Émirats arabes unis eut tremblé sous les coups de l'une des opérations balistiques hybrides les plus complexes du siècle, nouvelle opération étendue sur plusieurs heures et impliquant un réseau synchrone de 20 drones de type Sama 3, de deux missiles de croisière Rhodes 2 et de trois engins balistiques tactiques à tête détachable Zolfaror, partis tous et simultanément du territoire yéménite pour atteindre sans accroc et au bout d'un trajet de 1300 à 1600 km, copieusement truffé de radars US Israël et guetté sans cesse du ciel par tout ce que compte l'US Air Force de P-8, de Gulfstream, de E-112, trois pétroliers au large d'Abu Dhabi avant de se diriger droit sur le port de Mustapha, ses entreprises high-tech, ses firmes d'automobiles et ce super parking bourré de voitures de luxe genre Audi, Volkswagen, Porsche et enfin finir ce sacré boulot à l'aéroport international de Ben Zayed, non sans se souvenir un peu de l'aéroport de Dubaï. Et ce mardi, Israël a annoncé avoir testé avec succès ses Arrow 3. Le ministère israélien des Affaires militaires et l'Agence américaine de défense antimissile MDA ont mené avec succès un test d'interception planifié du système de défense antimissile Arrow 3 ou HETS 3. Et ajouté, le test mené par Israël Aerospace Industries en collaboration avec l'armée de l'air israélienne s'est déroulé dans le centre d'Israël. Au cours de l'essai, le réseau de radar du système Arrow a détecté la cible et a transféré les données au contrôle de gestion de combat BMC, qui a analysé les données, établi un plan de défense et lancé deux intercepteurs Arrow 3 vers la cible exo-atmosphérique, détruisant avec succès son missile. Les deux intercepteurs avaient deux missions différentes avec deux trajectoires de vol différentes pour abattre la même cible. Le système a été testé contre des cibles similaires au comportement des missiles avancés développés par l'Iran et de menaces futures auxquelles Israël pourrait être confronté comme un barrage de missiles balistiques contre le pays. Mis à part l'absence criante de preuves visuelles de ce supposé succès, ce test antibalistique Arrow 3 qu'Israël a médiatisé précipitamment en pensant sans doute trop fort à Ansar Allah, qui traitait jusqu'ici de mandataire, vient de prouver par drone puis missile qu'il est de loin la seule puissance balistique de la région ultra-stratégique de Mer Rouge, une puissance diablement à craindre car entre les deux opérations Aramco 2019 et Abu Dhabi 2021, il n'y a que l'essaim de drones de commun et qu'en termes de capacité à hybrider drones à sens unique, drones de combat, missiles balistiques tactiques et missiles de croisière ailés, la résistance yéménite a tout réinventé en bouleversant carrément les règles en vigueur, renvoie à une criante de nature portuaire, voire insulaire, et comment s'interroge l'article. Le 7 et le 27 décembre dernier, le port stratégique de Latakia a été pris d'assaut par Israël dans un littéral excès de folie. Certes, il s'agissait d'abord et surtout d'une tentative destinée à discréditer la Russie et sa DCA, à faire comprendre à Moscou que sa présence durable en Méditerranée orientale pourrait lui coûter cher et qu'un de ces quatre, il se pourrait même que son Émeimem et sa Tartous en fassent aussi les frais. Mais ce n'était pas, tout en frappant la Taquillée, en y infligeant d'énormes dégâts, l'ex-US Israël s'en est aussi pris, non pas à des cargaisons de missiles iraniens, mais à ce vaste corridor anti-sanctions US qui, parti du Golfe Persique, traverse la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, le canal de Suez, pour arriver sur la côte ouest syrienne. Quelques observateurs ont vu à travers ce coup de folie israélien l'écho désespéré de la cuisante défaite que fut pour l'axe pro-US la mise hors d'état de nuire d'Al-Tanf et de sa zone de 55 km après la frappe au drone du 20 octobre, n'empêche que cette double attaque anti-Latakia a étendu soudain la guerre à la mer. Abu Dhabi du 17 janvier, avec ses pétroliers en feu, ses colonnes de fumée s'élevant de toutes parts, ses ressortissants occidentaux faisant leurs valises, sa bourse en chute libre, le futur miroir du port d'Eliat, s'interroge toujours l'article. Depuis 48 heures, la presse israélienne ne cesse de le répéter, dans la mesure où le cocktail drone, missile qui, ayant quitté le Yémen, s'est abattu à Abu Dhabi, aura à faire exactement la même distance s'il décidait de s'abattre sur Eliat. Et ce ne sont pas ces rapports repris largement ce mercredi par les agences russes comme quoi les terroristes pro-Erdogan à Idlib projetteraient de lancer des attaques terroristes à Latakia et à Tartous qui pourraient éloigner la perspective d'une attaque préventive ou d'une riposte syro-résistance contre Eliat. Ce serait d'autant plus terrifiante que la Russie de Poutine y apporterait sa contribution rien qu'à en juger les propos émis ce matin par le contre-amiral Oleg Zouravlov, directeur adjoint du centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, qui a dit, selon les informations des autorités de sécurité syriennes, des groupes terroristes déployés dans la zone de désescalade d'Idlib planifient des attaques terroristes dans les ports de Tartous et de Latakia. Conformément à une décision prise conjointement par l'axe Damas-Moscou, des unités de la police militaire patrouillent dans le port maritime et dans le territoire adjacent de la ville de Latakia. Chers amis auditeurs, vous pouvez trouver l'intégralité de l'article sur notre site frenchpresstv.ir. Merci de votre écoute.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 15 janvier 2022. À la tête d'une délégation politique de haut rang, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé en Chine à l'invitation officielle de son homologue chinois. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que des questions stratégiques étaient au menu des discussions avec les responsables chinois. Il a réaffirmé que l'approfondissement des relations avec les pays voisins et alliés constituait en effet le pilier de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Lors d'une rencontre avec son homologue chinois, Hossein Amir Abdollahian a souligné la détermination de la République islamique d'Iran à approfondir les liens avec Pékin dans le cadre du partenariat, de l'accord de partenariat stratégique de 25 ans signé en mars 2021 entre les deux pays. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite du chef de la diplomatie iranienne en Chine, l'importance de ce regard vers l'Est de la République islamique d'Iran, à l'approche de la visite du président iranien en Russie et les répercussions, en effet, de cette visite sur les développements en Asie centrale et sur l'Union eurasienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À la tête d'une haute délégation politique, le ministre iranien des Affaires étrangères a débarqué vendredi à l'aube à Pékin. Hossein Amir Abdollahian et la délégation qui l'accompagne se sont entretenus avec les dirigeants chinois des relations politiques bilatérales et de la mise en application des accords économiques déjà conclus entre les deux pays. En visite à Pékin, à l'invitation officielle de son homologue chinois, le chef de la diplomatie iranienne a rencontré ce dernier pour discuter du dernier statut du plan de coopération sino-iranien prévu pour 25 années. Dans ce droit fil, le magazine américain Foreign Policy rapporte que l'essor des relations entre l'Iran et la Chine constitue une menace sérieuse pour les intérêts des États-Unis, d'Israël et des pays arabes du Golfe Persique. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian se rend en Chine vendredi pour approfondir le partenariat stratégique global que les deux pays ont signé l'année dernière. La coopération croissante en matière de sécurité sino-iranienne représente une menace sérieuse pour les principaux intérêts sécuritaires des États-Unis, d'Israël et des pays arabes du Golfe Persique, écrit le magazine. Foreign Policy continue que le partenariat stratégique de 25 années que Pékin et Téhéran ont signé en mars 2021 offre des avantages majeurs pour ces deux adversaires de Washington, unis dans leur opposition aux États-Unis. selon le magazine américain, en établissant des relations avec l'Iran, la Chine renforce sa présence au Moyen-Orient et sape les États-Unis. Et l'Iran, pour sa part, obtiendra des milliards de dollars d'investissements chinois dans l'énergie et les infrastructures, ce qui minera l'efficacité des sanctions américaines. Il s'agit du premier déplacement d'Amir Abdullahian en Chine après sa désignation en tant que ministre des Affaires étrangères. Le partenariat stratégique global sino-iranien est en effet une feuille de route qui trace les futures coopérations entre les deux pays. Le document a été élaboré dans l'esprit d'une recherche pour la région et le monde entier de la paix, de la stabilité et du développement. Il n'a nullement pour destinée une quelconque ingérence dans les affaires internes des autres pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue, et depuis Bruxelles avec Xavier Dupré, économiste et analyste politique. M. Dupré, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Alors, je serai bref pour la première question. Quelle est l'importance de cette visite du chef de la diplomatie iranienne, sa première visite en effet en Chine, dans le contexte actuel des évolutions géopolitiques de la région, à la fois dans la région de l'Asie occidentale, mais aussi de l'Asie du Sud-Est?
Alors, quand il faut vraiment au tout de suite se rendre compte de l'importance tout à fait stratégique de ces accords et de cette visite, puisqu'en fait cette visite concrétise et lance l'application de ces accords, elle montre clairement qu'il existe aujourd'hui une alternative à l'omniprésence américaine en Asie occidentale. Et donc il y a effectivement d'un côté une grande puissance régionale, l'Iran, qui s'allie avec la Chine, qui est en passe de devenir au cours des prochaines années la première puissance mondiale. Ça, c'est vraiment un tournant pour l'Asie de l'Ouest. Et là, on voit clairement que la capacité d'injonction, la capacité stratégique même des États-Unis est très très solide dans la région. Elle l'était déjà depuis un certain nombre d'années. En témoigne notamment l'échec en Afghanistan, le fait que la Syrie a réussi à rétablir une situation d'ordre public faisant alors grâce à l'Iran et la Russie, mais ici véritablement on joue sur quelque chose d'un autre niveau. Il y a un acte qui est l'acte qui n'est pas celui de la prise de contrôle, en tout cas de l'affirmation d'une intervention américaine dans la région au cours des 20 prochaines années. Évidemment, du côté de la Chine, il y a un autre bénéfice. Au moment où les États-Unis se montrent, et donc, il suffit simplement de garder en mémoire la création de l'OCUS comme force militaire intégrée destinée à contrer la Chine, et aujourd'hui, la Chine qui des revendications de souveraineté sur le peuple de Chine méridionale, eh bien, il se trouve tout simplement qu'elle est capable, la Chine, Pékin est aujourd'hui capable de dire aux États-Unis, vous venez sur notre terrain, nous sommes capables, nous, de nous déplacer et de nous opposer à vous sur un autre terrain où vous croyez jusqu'à présent, de manière assez illusoire, complètement hégémonique. C'est véritablement, comme souvent dans l'histoire de l'Iran, l'Iran joue un rôle important, puisqu'en fait cet accord marque clairement un basculement géopolitique qui va mettre de plus en plus les États-Unis en position d'égalité stratégique avec la Chine, quand bien même Washington ne le désire pas. Mais l'histoire du genre humain ne se limite évidemment pas au seul desiderata de Washington.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, M. Dupré. On va tout de suite rejoindre à Toulouse M. le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue. M. le professeur, bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous. Au cours de l'année dernière, M. le professeur, d'importants événements alors ont eu lieu. La signature de cet accord, de ce partenariat stratégique de 25 ans entre Pékin et Téhéran, l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai comme membre à part entière, le retrait américain d'Afghanistan, sans oublier bien entendu le fait que, alors depuis son entrée en fonction, le président Raisi a promis en effet un regard vers l'Est et dans ce cadre, il va effectuer prochainement une visite en Russie. Et avant cette visite, alors, ce déplacement du chef de la diplomatie iranienne en Chine. Alors, dans quelle mesure, en effet, ces événements pourraient contribuer à une nouvelle phase d'unité dans la région d'Asie occidentale et au sein de l'organisation eurasienne?
Le choix même de cette visite en Chine, qui est un choix politique, stratégique, avant le voyage en Russie, nous semble avoir une grande signification. Car il ne s'agit pas, c'est de l'Iran, disons, bien sûr, avec la Russie, des rapports amicaux. Mais il est certain que être pris entre deux puissances, comme puissance hostile ouvertement, comme les États-Unis et la Russie, n'est pas sans inconvénient. Et il est donc excellent de mettre dans la balance, si je puis dire, la Chine, qui elle-même, disons, est en rapport avec la Russie, mais disons, a des intérêts particuliers. Ne s'y confond pas. Il y a même eu, vous savez, dans les années 60, j'étais en prison sur le matin, les étudiants de la Sorbonne me rappellent qu'il y avait, disons, un conflit ouvert entre la Russie et la Chine pour des questions diverses, je vais dire, c'était l'extrait. Cette phase a été dépassée à l'intérieur de ce camp qui était en communiste, et aujourd'hui, la présence chinoise nous semble, et cet accord de 5 ans, nous semble être une garantie d'indépendance pour l'Iran même. C'était une garantie de stabilité. Il est certain, bien sûr, que l'Iran a contre les limites de Shanghai, comme l'organisation de Shanghai, comme l'a rappelé M. Dupré. Mais nous estimons que la Chine a ses intérêts propres. C'est-à-dire qu'elle pèse, disons, comme dans ce terme. Et je dirais même que elle semble plus près de l'Iran pour une raison, disons, proprement économique et stratégique, en particulier dans le rapport dans la fourniture de matières premières, etc. Et donc, de la part de la Chine, disons, qui a l'intention à exploiter les ressources naturelles de l'Iran, et disons, en outil même. Je crois que la Chine peut jouer, comme elle a joué autrefois dans l'histoire, hein, justement, dans un problème. Vous savez, toute aujourd'hui, c'est équilibré, nous sommes toujours dans une philosophie, heureusement, de rapport de force. Et il est évident que, en particulier, face aux agressions de certains milieux internationaux comme Israël, par exemple, la Chine, quel est le rapport avec Israël, bien sûr, c'est un point économique, mais financier, peut jouer aussi un rôle, disons, de contrepoids. Ceci, n'est pas sans importance, Téhéran. Car, ce qui a marqué votre pays, c'est ce blocus instable. Je dirais même que l'hostilité contre l'Iran est très profonde dans certains milieux américains. Je me demande pourquoi, je vais dire à un auditeur que le discours d'adieu, M. Trump, aux affaires, il a déclaré que le général Martin, par exemple, dont on a parlé récemment, était un bouche-tête, voyez. Il n'a pas dit ça au moment de l'attentat. Il a dit ça, justement, à quelques temps après, disons, lors de son départ. Donc, nous avons affaire véritablement à des gens qui sont aveugles, à des gens qui sont excités, peut-être par ces milieux dont j'ai pu parler, à des extérieurs des États-Unis. Il est très bon que, justement, l'Iran diversifie, sur ce fait qu'il y a également des intérêts, des rivalités ou des concurrences entre la Russie et la Chine, et ce qui n'est pas suffisamment de valeur, et surtout étendu sur une longue distance de temps, comme les 25 ou 30 ans. C'est une rivalité normale, comme cela arrive, entre tous les États. Cela n'implique pas de pays, vous voyez. Mais je crois que le fait que l'Iran sache choisir, disons, soit sache reconnaître ses partenaires, voyez-vous, pour long, sur un long espace de temps, donc stabilise la politique de l'Iran, et à l'extérieur, permettez, bien sûr, de le dire, à l'intérieur même de votre pays. Je crois que cela peut donner une confiance en soi à votre peuple, à ce grand, le grand peuple que fait l'Iran, et également modifier les relations ou améliorer les relations avec les pays voisins comme la Turquie et autres. Car si la Chine intervient dans ce partenariat à long terme, comme de 25 ans, alors à ce moment-là, l'Iran ne sera pas considéré de la même manière, il sera, disons, respecté avec des critères de force qui sont heureusement des critères de la vie actuelle.
Merci infiniment, monsieur le professeur, pour ces précisions. Restez avec nous. Monsieur Dupré, alors. Ces trois pays, à savoir l'Iran, la Russie et la Chine, ont un point commun, en commun bien sûr, le fait qu'ils sont tous les trois victimes des sanctions américaines et des sanctions qui ont toujours été utilisées comme un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Dans quelle mesure l'approfondissement des liens entre cette alliance, les membres de cette alliance tripartite pourrait d'une part, en effet, à contribuer à relever le défi de l'unilatéralisme américain sur la scène internationale et d'autre part contrer les sanctions illégales des États-Unis.
En ce qui concerne le fait de contrer l'unilatéralisme des États-Unis, il va de soi que de grandes puissances, de grands pays avec de grands potentiels comme bien sûr la Russie, la Chine et l'Iran. Eh bien, le fait que ces trois pays se coordonnent davantage puissent bénéficier, créer un effet de contrepoids sur toute une série de théâtres stratégiques où les États-Unis sont très impliqués, eh bien évidemment, cela contribue à l'émergence d'un monde multipolaire dans lequel le principe de respect des souverainetés nationales sera évidemment davantage mis au centre de l'agenda politique qu'il l'est aujourd'hui. C'est un premier élément, je pense, qui est vraiment important. Alors, sur la portée même des sanctions des États-Unis, on observe dans le temps, vous avez raison d'insister sur le fait que la politique de sanctions à caractère économique constitue une manière dans laquelle, par laquelle les États-Unis entendent clairement limiter la souveraineté des pays qui auraient tendance à vouloir exister. Et on observe d'autant que l'efficacité de ces mesures de sanctions, eh bien, elle diminue. Lorsque dans les années 60, le président Kennedy traite un blocus sur Cuba, les effets seront drastiques sur l'économie cubaine. Et on s'aperçoit qu'avec le confinement, ces politiques de sanctions sont de moins en moins importantes, puisque le développement industriel et technologique diffuse davantage dans le monde. Et on peut penser que dans quelques années, suite à la montée en gamme en termes de valeur ajoutée et de contenu technologique des filières industrielles chinoises, eh bien, en fait, les sanctions des États-Unis seront complètement inopérantes, seront à peu près inopérantes, puisque toute une série de biens industriels qui sont aujourd'hui, les capitales notamment, qui sont aujourd'hui produits par des pays occidentaux, plus ou moins contrôlés malgré tout par les États-Unis, seront produits en Chine. Donc, les États-Unis ne pourront plus opposer leur veto à l'exportation de ce type de biens qui est nécessaire au développement économique et technologique. Ce qui a suscité également des mouvements de paiement de plus en plus sans Chine, ce qui veut dire que les banques chinoises, les grandes financières chinoises ont de plus en plus la main sur les canaux de paiement, ce qui évidemment va rendre de moins en moins opérant, de moins en moins efficace, les mesures de sanctions des États-Unis sur les canaux de paiement qui eux, les millions de dollars. Il y aura moins de nécessité d'opérer à partir de ces canaux de paiement et d'opérer des transactions financières en dollars. Le yuan prendra une importance de plus en plus croissante avec le temps. Et on le sait d'ailleurs dans la composition des réserves de change aujourd'hui de la nation de Russie. Il y a de moins en moins de dollars dans, bah, suite aux sanctions, évidemment, dans les réserves de la banque de la Fédération de Russie. Et le yuan est en train de plus en plus de supplanter progressivement les devises occidentales. La Chine mise, la Russie, pardon, mise plus en plus sur le développement industriel de la Chine. Au total, pour un pays comme l'Iran, des accords de coopération qui portent 400 milliards de dollars et une génération, il y a 25 ans malgré tout, eh bien, c'est la garantie de sortir en réalité l'étau et de l'étouffoir pour représenter depuis, eh bien, depuis 1979, depuis la création de la République islamique d'Iran, eh bien, c'est la garantie de sortir de cet étouffoir qui a été mis en place par les États-Unis, comme chaque fois le gouvernement s'est opposé à eux en s'appuyant sur ce qui est son bon droit, en réalité sa souveraineté nationale. Donc nous sommes ici véritablement présents, comme je disais tout à l'heure, d'un bâtiment géostratégique important, puisque on voit clairement aujourd'hui que trois pays qui ont décidé de jouer la carte de leur souveraineté face à l'unilatéralisme américain, eh bien, ils se renforcent les uns les autres dans cette quête d'affirmation de leur indépendance. Et ça, c'est tout à fait capital, parce que ça signifie qu'on pourra, dans les livres d'histoire, dans une trentaine d'années, je ne serai peut-être plus là pour le voir, pour le livre, mais en tout cas, on dira que les accords stratégiques, les accords de coopération très profonds qui ont été conclus entre Téhéran et Pékin préfigurait quelque part le basculement vers un monde multipolaire.
Merci.
Et là, là, véritablement, on peut déjà dire que c'est l'histoire telle qu'elle est.
Merci, merci, monsieur Dupère.
La chute du mur de Berlin qui a changé, en fait. Voilà, excusez-moi.
Je vous en prie, merci infiniment. Une toute dernière question à monsieur le professeur Dortiguier. Monsieur le professeur, l'émergence de ce monde multipolaire à la lumière de la coopération étroite entre l'Iran, la Russie et la Chine, dans quelle mesure c'est alors l'apparition de ce monde multipolaire pourrait d'une part contribuer en effet à changer la donne au sein des instances internationales et d'autre part à favoriser en effet, les échanges économiques entre non seulement ces trois pays, mais aussi avec les autres pays du monde.
En effet, cela, pour dire en bref, permet de faire un coup d'arrêt à l'Europe de reprendre, disons, son effort, c'est-à-dire d'assumer le rôle de la jouer vis-à-vis de l'Iran, par exemple, et vis-à-vis de l'Asie et d'autres pays. Nous aurions, disons, comme Européens, et M. Dupré ne contredira pas certainement, que l'Europe d'autres est une. Que l'Europe trouve là sa chance, justement. C'est l'Europe est elle-même victime de ce monde unipolaire. Ce monde unipolaire, ou alors un monde faussement, faussement divisé, entre une Russie longtemps affaiblie et une Russie qui domine par, justement, le caractère de la monnaie, selon les entreprises de Bretton Woods. Voici, on sait que, on peut voir, disons, c'est l'accord de partenariat sur un si long terme, c'est-à-dire, somme de 30 ans, mais également plus de voix de respiration de l'Europe, et elle-même sera alors beaucoup moins possible aux pressions américaines ou aux pressions militaires.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse, monsieur Xavier Dupré, économiste et analyste politique depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
la double hélice de la stratégie pandémique et économique entrelacée. Le corollaire de l'effondrement de l'initiative technocratique visant à liquider l'économie surendettée pourrait bien être la récession. Un professeur américain de US Army War College à Washington note à propos de la campagne pour le retour en Asie des emplois de col bleu perdus aux États-Unis que ces emplois ne reviendraient jamais. Ils étaient partis pour de bon. Les États-Unis ne s'attendaient pas à ce que la majorité de ces emplois manufacturiers banals reviennent et ne le souhaitaient pas. Ils devraient rester en Asie. Les élites, poursuit-il, ne veulent que les sommets de la technologie. Elles voulaient la propriété intellectuelle, les protocoles, les mesures, le cadre réglementaire qui permettrait aux États-Unis de définir et de développer les deux prochaines décennies d'évolution technologique mondiale. Cependant, le véritable dilemme, selon lui, était le suivant. Que faire des 20% de la main-d'œuvre américaine qui ne serait plus nécessaire, qui ne serait plus indispensable au fonctionnement d'une économie américaine axée sur la technologie? En fait, ce que le professeur a dit n'était qu'une facette d'un dilemme économique fondamental. À partir des années 70 et 80, les entreprises américaines ont délocalisé leurs coûts salariaux vers l'Asie. Il s'agissait en partie de réduire les coûts et d'augmenter la rentabilité, ce qui a été le cas, mais cela représente également quelque chose de plus profond. Depuis le début, les États-Unis ont été un empire expansionniste qui n'a cessé d'assimiler de nouvelles terres, de nouveaux peuples et leurs ressources humaines et matérielles. La marche en avant et l'expansion militaire, commerciale et culturelle continue sont devenus le moteur de Wall Street et de sa politique étrangère. Car, sans cette expansion incessante, les liens civiques de l'unité américaine sont remis en question. Une Amérique qui n'est pas en mouvement n'est pas une Amérique. C'est l'essence même de la lettre culture américaine. Pourtant, cela n'a fait que renforcer le dilemme. L'expansion s'est accompagnée d'un déluge de crédits de Wall Street dans le monde entier. Le fardeau de la dette a explosé et devenu très lourd, en équilibre instable sur une tête d'épingle de véritables garanties sous-jacentes. Ce n'est qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, que cette impulsion stratégique expansionniste implacable des États-Unis a été remise en question par l'axe Russie-Chine. Ils ont déclaré « ça suffit ». Il y a eu toujours un autre aspect à cette dynamique de transition structurelle occidentale. Ses fondements, comme l'a suggéré le professeur, ne repose plus sur le travail socialement nécessaire contenu dans la fabrication de produits ternes tels que les voitures, les téléphones ou le dentifrice. Dans ce contexte, les 20%, ou plus vraisemblablement les 40% de la main-d'œuvre, deviennent tout simplement superflus dans cette économie hautement complexe, hyper financiarisée et en réseau. Voici donc le deuxième dilemme. Alors que le rétrécissement structurel de l'économie basé sur le travail gonfle le secteur financier, la volatilité complexe de ce dernier ne peut être contenue que par une logique de dopage monétaire perpétuel, injection perpétuelle de liquidités, justifiée par des urgences mondiales nécessitant des stimuli toujours plus importants. Comment faire face à ce dilemme? Eh bien, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce n'est pas une option. Le régime pandémique devient le symptôme d'un monde si éloigné de toute autosuffisance économique réelle, suffisante pour soutenir sa main-d'œuvre existante, que le dilemme ne peut être résolu, du point de vue des élites, qu'en facilitant l'atténuation continue de l'ancienne économie, tandis que les actifs financiers doivent être réapprovisionnés par des ajouts réguliers de liquidités. Comment la gérer? avec l'abolition progressive du contenu traditionnel de la main-d'œuvre dans les marchandises, soit par l'automatisation, soit par la délocalisation, les entreprises ont utilisé l'idéologie de l'éveil pour se réinventer. Elles ne produisent plus seulement des choses, mais des produits sociaux. Et sont des parties prenantes de la société qui fabriquent des résultats socialement souhaitables. Diversité, inclusion sociale, équilibre entre les sexes et gouvernance climatique responsable. Cette transition a déjà produit une corne d'abondance de nouvelles liquidités ESG circulant dans des artères économiques calcifiées. Et la pandémie, bien sûr, justifie la stimulation monétaire, tandis que l'urgence de santé climatique qui suivra est préparée afin de légitimer une nouvelle expansion de la dette pour l'avenir. L'analyste financier Mauro Bottarelli a résumé la logique de tout cela comme suit. Un état d'urgence sanitaire semi-permanent est préférable à un crash vertical du marché qui transformerait le souvenir de 2008 en une promenade dans le parc. Le professeur de théorie critique à l'université de Cardiff, Fabio Vicky, a noté l'incurabilité de ce qu'il appelle la condition de long Covid du banquier central, que l'injection d'un monétaire aussi énorme que celui que nous avons vu n'a été possible qu'en éteignant le moteur de Main Street, car une telle cascade de liquidités, 6 000 milliards de dollars, ne pouvait pas être autorisée à se déverser bon gré mal gré dans l'économie de Main Street, selon les banquiers centraux, car cela aurait provoqué un tsunami inflationniste à la Weimar. Au contraire, son objectif principal a été de gonfler davantage le monde virtuel d'instruments financiers toujours plus complexes. Inévitablement cependant, couplé à des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, le flot de liquidités a provoqué une hausse de l'inflation de Main Street et a donc imposé de nouveaux dommages sur le terrain. L'objectif consistant à gérer l'atténuation de l'activité manufacturière d'une part, verrouillage des petites entreprises, tandis que les liquidités circulaient librement dans la sphère financiarisée pour retarder un crash boursier, a échoué. L'inflation s'accélère, les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui entraînera des conséquences sociales et politiques négatives, la colère plutôt que la conformité. Au cœur de la situation difficile pour ceux qui dirigent le système, il y a le fait que s'ils devaient perdre le contrôle de la création de liquidités, que ce soit en raison de la hausse des taux d'intérêt ou d'une dissidence politique croissante, la récession qui s'ensuivrait détruirait l'ensemble du tissu socio-économique. Et toute récession grave aurait probablement des répercussions sur les dirigeants politiques occidentaux également. Ils ont donc choisi, au lieu de cela, de sacrifier le cadre démocratique afin de mettre en place un régime monétaire ancré dans le culte de la science et de la technologie, de la propagande médiatique et des récits de catastrophes comme moyen de progresser vers une prise de pouvoir technocratique-aristocratique sur la tête des gens. Oui, dans certains cercles, on la considère comme une nouvelle aristocratie de l'argent. Les conséquences du capitalisme d'urgence sont résolument biopolitiques, note le professeur Vicky. Elles concernent l'administration d'un surplus humain qui devient superflu pour un modèle reproductif largement automatisé, hautement financiarisé et implosif. C'est pourquoi le virus, le vaccin et le passeport Covid sont la sainte trinité de l'ingénierie sociale. La prochaine fois, nous développons le sujet en s'attardant sur la vaccination et ses raisons. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Thank you. Thank you.